Lillo. Lillo. Lors de ce gris.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins, à bicyclette, bicyclette, bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes.
Bonjour et bienvenue sur votre station préférée Radio G. Aujourd'hui, nous sommes à Ille-et-Leur-Monseigneur. Pas une équipe au complet, nous sommes que quatre. On va souhaiter.
Oui, mais c'est les meilleurs.
C'est ça. Oh. On va quand même souhaiter un prompt rétablissement à notre amie Jacqueline, qui est un petit peu souffrante aujourd'hui, et puis Ricardo qui n'est pas là, qui est en vacances. On nous a pas envoyé de carte postale, mais bon, on l'attend. Bonjour Marc.
Oui, bonjour Raphaël, bonjour les auditeurs et auditrices.
Bonjour Josiane.
Bonjour tout le monde.
Et salut Jean-Jacques.
Bonjour.
Bon, comme d'habitude, on a une petite un couple mystère à découvrir cette semaine. Mais avant ça, on va peut-être commencer par une petite phrase du jour, Marc.
Oui, mais ce que je vous ai proposé, ce que je vous propose, c'est la phrase suivante. Ne pas être possédé par ce que l'on possède. Donc, dans ces temps, c'est vrai, où une société dite de consommation...
Matérialisme,
on s'accroche. Et je pense que, moi, je la vois comme ça. C'est-à-dire, si on est dans cet esprit-là, donc de posséder et puis d'être accaparé, on est accaparé, en fait, par ce qu'on a, et puis on ne voit pas ce qu'il y a autour. Hein, nos proches, la vie qui va autour, et c'est dommage, parce que le temps passe vite. Et donc...
Mais de temps en temps, on a des moments de prise de conscience... Mais ça passe vite. Le problème, c'est qu'on revient.
Ouais. Bon. Puis c'est puissant, hein, l'instinct de propriété, de posséder, c'est fort.
Là, ça m'inspire plein de choses, mais on va en reparler tout au long de l'émission. On va tout de suite écouter une chanson de 1928. C'est le premier indice pour découvrir le couple mystère cette semaine. Une chanson de interprétée par Jean Gabin, pardon, et qui s'appelait Quand on se promenait.
Au bord de l'eau.
Allez, c'est parti.
Du lundi jusqu'au samedi, pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau,
suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Donc c'était Jean Gabin avec Quand on se promène au bord de l'eau. Alors on n'est pas tout à fait d'accord avec Jean-Jacques, on n'est pas sûr finalement de l'année de la chanson, si c'est une erreur de programmation, je vous prie de m'en excuser. Bon, toujours est-il que pour le couple mystère, c'était l'année de leur rencontre. Alors c'est un couple homme-femme qui était couple dans la vie et voilà, qui a été bien surprenant tout au long de l'existence et pas toujours de bonnes mœurs. Voilà, c'est un petit indice que je vous donne. Alors, oui, on parlait tout à l'heure d'être esclave de notre quotidien,
de
aussi,
avoir,
de ce que l'on possède, mais est-on vraiment libre quand on est dépourvu aussi? Ça, c'est une question que je me pose.
Bien sûr, mais ça, cette phrase, elle a ça aussi en creux, hein, cette idée que on parle de société de consommation, mais il y en a qui peuvent pas justement consommer ou avoir le minimum. Mais cela dit, je crois quand même que il faut un certain détachement par rapport au bien, pour se libérer par rapport, par rapport aux êtres humains notamment. Je pense à une chose très simple. Cette semaine, je pensais à, on vit avec des proches, des amis, etc. Et souvent, on n'a pas l'occasion de leur dire qu'on les aime.
Tout à fait.
Alors qu'on est accaparé par plein de trucs, voilà. Et c'est trop tard. C'est pas quand, le jour.
Alors, est-ce que c'est la pudeur qui nous empêche de.
Ben, je sais pas, justement,
De dire.
Oui. En tout cas, moi, j'encourage à dire. J'essaie de dire, mais bon, ça me paraît important parce que ça fait tellement de bien.
Ouais. Bon, pour la pudeur, habille-toi quand même, Josiane.
J'ai plusieurs pelures. Hein.
Non mais effectivement, enfin aujourd'hui, être ou avoir, c'est une vraie question. Et être sans avoir, c'est parfois un déchirement du cœur pour certains, quoi. Parce que avoir, c'est aussi avoir les moyens de, et c'est pas donné à tout le monde.
Mais t'as aussi, je crois, une espèce de maladie, parce que j'ai mon voisin, pour ne pas en parler, qui accumule tout. Hein, il enlève un clou rouillé, il le met dans un truc. Je lui demande au secours parce que je cherchais quelque chose. Il me donne une boîte pleine de clous rouillés. J'ai dit, écoute, t'en as pas un neuf quand même. Non, mais.
Après, il y a ceux effectivement qui sont esclaves non pas de ce qu'ils ont, mais de l'image que ça leur donne. Ils ont besoin d'exister à travers ce qu'ils paraissent.
Et je crois que c'est encouragé par le modèle de consommation, de marketing. Hein, ils jouent là-dessus. Hein,
Mais c'est dans la nature humaine. Hein. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a 50 ans, quand on était sur la modernisation dans le monde rural, il fallait toujours avoir le plus gros tracteur, quoi.
Et même je pense à la génération de mes grands-parents, ça remonte un peu, mais le rapport à la terre, c'est-à-dire la terre, l'objectif de l'agriculteur, du paysan propriétaire, c'est d'en avoir plus, c'est encore valable aujourd'hui.
Il fallait pas déplacer
un poteau.
C'était
sacré, c'était ce qui passait avant tout. Ce qui passait avant tout, c'était avoir un hectare de plus.
C'est-à-dire que, excuse-moi, mais dans les héritages, justement, on donnait plutôt tout à l'un et puis les autres.
Pour conserver l'entité. Voilà.
Hein, le petit dernier n'avait pas de bol. Hein.
Non, il fallait qu'il se mette. Alors, si je me souviens bien, dans la noblesse, le premier avait le titre, le deuxième, c'était dans l'armée, et le troisième, c'était dans les ordres.
Oui. Mmh. Et oui, c'était un peu ça.
Ça filait droit, tout ça. Hein.
C'est lui qui était dans les ordres. Je ne sais pas s'il était dans le désordre ou quoi, mais.
C'est possible.
C'était pas obligatoirement une vocation.
C'est peut-être un temps où l'autodétermination n'avait pas lieu. Hein.
Ouais. La majorité des propos qu'on tient, là, ça doit vouloir rien dire pour les personnes de nouvelle génération. Et surtout les gens qui habitent en ville. Là, parce que tu parlais justement du terroir.
Oui, bien sûr.
Hein, il est évident que, alors par contre, la majorité des gens qui nous entendent savent de quoi tu parles. Évidemment.
Par contre, maintenant, les histoires d'héritage te montrent bien que.
C'est toujours l'actualité.
Après, on en a déjà parlé à ce micro, mais c'est vrai qu'il y a des différences générationnelles quand même assez significatives. Les jeunes sont plutôt dans l'usage que dans le sens de la propriété, et finalement, ils ne voient pas toujours l'intérêt de posséder. Moi, j'ai des enfants qui sont plus jeunes, hein, qui ont la vingtaine. pas de voiture et c'est pas un problème pour eux. Quand ils ont besoin, ils louent à l'occasion. Ils n'ont pas le sentiment d'avoir besoin d'une voiture au quotidien et ils préfèrent effectivement utiliser les transports en commun. Ce sont des choix de vie.
Oui, mais et je dirais, je vais même plus loin.
Va plus loin, mais rapproche-toi du micro, mais va plus loin.
Moi, ce que je veux dire, c'est que ça dépend de la mentalité, de l'instruction. Je veux dire, je sais que des personnes de même génération avaient des goûts complètement différents, que ce soit en musique, en littérature et tout ça. Ça dépend. Je veux dire que c'est pour ça. C'est pas une. Alors, comme tu dis, d'abord, Marc, le matérialisme, ça c'est vrai à outrance actuellement. Puis d'un autre côté, t'as des gens, des jeunes, qui n'ont absolument pas du tout la propriété, ils en ont rien à, ils connaissent même pas le critère de propriété.
Après, moi, quand j'avais 20 ans, je me souviens que c'était pas important pour moi d'être riche ou de posséder. La retraite, c'était déjà quelque chose d'illusoire quand j'avais 20 ans. Maintenant, effectivement.
Oui, mais à partir du moment où t'as charge de famille, par exemple.
Oui, c'est ça.
Ça modifie quand même pas mal les mentalités.
Et puis, si dans ta jeunesse, t'as été privé de tout un tas de trucs, t'as peut-être tendance à vouloir compenser.
Oui, c'est sûr. Et garder, accumuler en quelque sorte.
Oui, tout à fait.
Pour te préserver.
Se rassurer.
Et ça peut arriver aussi, c'est sûr.
On va faire la deuxième petite pause musicale. Je vais vous proposer une chanson de Nicolette Darieux avec « C'est si bon ».
Oui, mais alors attends, il n'y a toujours pas d'indice là ? Ou c'est un indice encore ? Un indice ?
On en parle tout de suite après ?
Pour le couple ?
Bah ouais, parce que je regarde bien, on avance là.
C'est si bon, de partir n'importe où.
C'est si bon,
bras dessus.
C'est si bon,
en chantant des chansons. C'est si bon, ah oui, de se dire des mots doux,
c'est si bon.
Des petits rien du tout,
c'est si bon.
Mais qui en disent beaucoup, en voyant notre mine ravie. Dans les rues, les passants nous envient, c'est si bon, de se dire des mots doux.
C'est si bon.
Des petits rien du tout.
C'est si bon.
Mais qui en disent beaucoup. C'est si bon. Ces petites sensations. Cherchez pas la raison. Tellement, c'est beau. Un espoir merveilleux,
c'est si bon.
Qui me donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations. Cherchez pas la raison. Tellement, c'est bon. Tellement, c'est bon. Tellement, c'est bon.
En 1928, moi je dis, franchement, peut-être Florent Pagny et puis Vanessa Paradis.
Eh bien non, c'est pas eux. Non, donc, c'était Nicolette Darieux avec C'est si bon en 1950. Alors, je disais que c'était un couple de mœurs légères parce qu'en fait, ils ont vécu dans le péché toute leur existence. Ils n'étaient pas mariés.
Ils étaient dans le cinéma.
C'était des intellectuels. S'ils étaient dans le cinéma, j'en ai pas eu connaissance. Mais voilà, c'était des intellectuels vraiment très très reconnus au plan national et international. Et effectivement, ils n'ont jamais été mariés de leur existence.
Oh, pour les
vivaient dans le péché.
Ah,
il paraît que c'est
peut-être
si bon.
Que la religion, ils s'en foutaient sans doute.
Ouais, bon, on en parle tout de suite après le prochain indice, à la prochaine chanson. Hein. Jean-Jacques, t'avais une petite chronique UFC que choisir à nous proposer.
Alors,
cette
me pose jamais la question, tu sais, tu as une...
J'ai toujours
L'accès aux services publics en déclin. Le Conseil d'État publie un rapport soulignant l'éloignement des services publics. Sans critiquer la dématérialisation massive des procédures, il recommande davantage de guichets et de permanence téléphonique vraiment disponible. Selon le Conseil d'État, les usagers des services publics sont de plus en plus désemparés pour effectuer leurs démarches parce que des réformes successives ont privatisé des missions, décentralisé des formalités, augmenté les normes. La mise en ligne des services administratifs apporte une simplification des procédures et facilite l'accès aux dossiers. Mais une partie de la population ne s'y retrouve pas, faute de contact humain. Le numérique n'est pas accessible à tous, d'une part, et sa complexité ne permet pas de tout résoudre, d'autre part. Pour compenser la dématérialisation des formalités, les pouvoirs publics ont multiplié les bureaux de proximité, comme les maisons France Service. Cela reste pourtant disparate et inégal. Les guichets et permanences téléphoniques mis en place par les administrations ne suffisent pas, faute d'évaluation de leur efficacité. Ainsi, moins de la moitié des services publics mesurent leur taux de décroché, proportion entre les appels reçus et ceux traités. Parmi eux, seuls 16% atteignent l'objectif fixé à 85%. Les marges de progrès sont donc considérables. Le Conseil recommande une modernisation centrée sur le service rendu. Par exemple, une décision d'aide financière devrait prévoir d'identifier les bénéficiaires éligibles avec un versement direct. Les prestations sociales pourraient aussi être proposées au public visé, plutôt que d'attendre qu'il se manifeste. Le financement de ces améliorations réside dans les économies réalisées par la numérisation des procédures. Oula, c'était difficile.
Non seulement à le dire, mais dans la réalité, c'est difficile.
Merci Jean-Jacques. Bon, effectivement, hein, les services publics aujourd'hui ne sont pas accessibles à tous de manière équitable. Et j'ai envie de dire, il y a plusieurs facteurs pour l'en empêcher. Ça peut être effectivement la culture numérique, ça peut être la distance, ça peut être plein de facteurs. Le temps qui manque. Enfin, aujourd'hui, aller à la mairie entre 14h et 16h, c'est pas donné à tout le monde. Et donc la numérisation ou la digitalisation des procédures est une solution, mais encore une fois, pas accessible à tous.
Disons, tu aurais dû faire la chronique à ma place.
Moi, il y a des services publics, effectivement, je trouve que les moyens qui sont mis en œuvre ne sont pas en adéquation avec avec la réalité du terrain. Enfin, aujourd'hui, on a une distance pour assurer, on va dire, des services. Enfin, même pas une distance, une durée parfois. Sauf que quand on rend la durée, on va dire, possible, par exemple, pour aller à l'hôpital par hélicoptère, c'est tout sauf raisonnable. Enfin, l'idée, ce serait peut-être plutôt de diviser les points de service plutôt que de les centraliser en un seul point, quoi. Les préfectures et les sous-préfectures.
Alors, la santé, n'en parlons pas. Oui. Tu demandes un rendez-vous, tu l'as l'année d'après.
Oui.
Pour mon cas personnel, je voulais prendre un rendez-vous chez un otorhino, c'est 6 mois.
C'est le tarif, c'est 6 mois. Donc, et moi, je par rapport à ça, on dit faire de la prévention, parce que c'est quand même ça ce qui est le plus intéressant pour la personne en termes de santé et pour la société en termes de dépenses. Eh bien, ce raisonnement-là, c'est ce que tu viens de dire, Jean-Jacques, c'est que on peut pas prendre des rendez-vous de prévention. C'est uniquement quand on a quelque chose de très grave qu'ils vont nous prendre.
Et encore quelque chose de très grave, t'attends 3 mois avant de voir.
Encore, mais enfin bon, ils ont quand même dans les cas très graves, ils sont obligés. Mais
de toute façon, là, c'est les urgences.
On est dans les urgences, quoi. Et on est. Alors, le résultat, les urgences sont envahies. Et on peut pas faire une véritable médecine de prévention. Mmh. Et c'est à mon avis, c'est celle-là qui qui est la plus pertinente dans la durée. Ça responsabilise les personnes et puis en plus c'est efficace la prévention.
Il y a même des trucs qui ont disparu complètement. Je pense par rapport au service dermatologie.
En dermato.
Il n'y en a plus.
Mais non. Et par contre, j'ai ouï dire que pour ce qui concerne la dermato, mais versus l'esthétique, là, il paraît que les rendez-vous sont là.
Ah bah oui.
Les rendez-vous sont là. J'ai entendu parler de ça.
Oui. Donc, seulement quand t'as
un
grain de beauté qui te gêne et que tu veux le faire enlever, dis donc.
Par contre,
il a le temps de faire des filles.
Pour se refaire le visage, là, d'accord.
Après, on parlait des urgences peu accessibles. Le problème des urgences, c'est pas tant le service, c'est aussi le public, hein, parce qu'on va faire de la bobologie. Et aujourd'hui, si les gens vont aux urgences, c'est parce qu'ils n'avancent pas les frais. Quelqu'un qui est modeste, qui gagne un SMIC dans un foyer, effectivement, c'est assez lourd d'aller chercher le médecin de garde à 50 ou 60 euros.
Ils ont quand même une bonne réputation, en principe, les intervenants de l'hôpital.
Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'on y va pour de la bobologie.
Mais par rapport à ce que disait Jean-Jacques aussi sur l'aspect, des services par rapport à l'application de lois sociales dont on peut avoir les besoins d'utiliser. Moi, je trouve que le contact, parce que c'est bien à distance, d'accord, même qu'on soit actif ou retraité ou plus ou moins âgé. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas égaux devant cette disponibilité, ce savoir-faire. Mais quand même, le contact, le retour, on se pose des questions, on comprend pas bien, etc. Mais on a besoin d'échanges. Et là, on l'a de moins en moins. C'est-à-dire que on fait faire le travail par l'usager, mais l'usager. C'est pas uniquement en ligne qu'on peut faire tout.
Et alors, Jean-Jacques, tu parlais dans ta chronique des Maisons France Service. Les Maisons France Service, elles deviennent débordées. Elles ont une mission qui était claire, mais aujourd'hui, on leur affecte des missions très très larges. Et pour le coup, les ressources humaines qui y sont affectées sont elles aussi débordées. Donc ça devient compliqué d'être bon partout.
Et ça souligne le besoin des gens d'aller à la rencontre.
Dans une société vieillissante comme la nôtre, effectivement, il faut de la ressource pour accompagner dans les démarches, on va dire, dématérialisées. Hein, sinon, ça marche pas. Mais encore une fois, peut-être que dans un futur, les choses seront attribuées d'office. Aujourd'hui, on sait parfaitement nous dire combien on va payer d'impôts parce que tout est déclaré en ligne et qu'ils connaissent nos revenus. Maintenant, effectivement, les aides, bizarrement, faut se manifester, quoi. Ils ne retrouvent pas dans ces cas-là. Enfin bon, c'est un beau monde dans lequel on vit.
c'est le monde du moment.
Bon. Et je vous propose une...
Et comme dirait Coluche, on n'est pas les plus malheureux.
Non, mais c'est ça le pire. Enfin, il suffit de regarder à l'échelle planétaire, on n'est pas si mal malgré tout.
Enfin, on râle quand même.
Oh, c'est ce qu'on sait faire de mieux.
On va améliorer.
C'est vraiment que français, ça.
On est pas mal,
on râle pas mal.
Je vous propose une nouvelle petite pause musicale avec Magali Noël, « Nous avions 20 ans ». Voilà, à tout de suite, c'est une chanson de 1960.
Viens, mon âme, viens t'étendre près de moi. Viens, c'est l'heure, rien qui nous gêne, rien ne peut s'opposer à notre amour. Nous avions 20 ans et nos corps attirés l'un vers l'autre tremblaient de fièvre et nos désirs ne savaient comment s'exprimer. Nous avions 20 ans et chacun nous vivions notre rêve, et dans ce rêve, il n'y avait que nos deux corps mêlés. dansait de joie dans l'ombre. Une fourrure blanche était devant le feu. J'étais vêtue de mes longs cheveux sombres. Tu venais me rejoindre et tu fermais les yeux. Nous avions 20 ans. Notre sang nous chantait des folies. Et nous chantions au rythme fou de notre sang qui nous brûlait. Nous avions 20 ans. Nous venions de découvrir la vie. Et nous voulions mourir d'amour ou vivre en nous aimant. Voix de feu, rêve et soupir, rêve et joue avec les charbons qu'il mord.
Jean-Jacques ne connaissait pas.
Bravo. Bon, bah voilà, c'était une chanson de Magali Noël, 1960. Nous avions 20 ans.
Je ne connaissais pas.
Bon. Non. Alors, c'est une chanson de Boris Vian, tu me disais, Jean-Jacques. Hein.
Oui.
Bon. Bon, voilà, vous connaissez Boris Vian. Ah,
bien sûr.
Oui. Bobo, comme disait Henri Salvador.
Bon, alors, moi, ça m'amène à une chanson, un petit pour ou contre. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Hein.
Ah, super. Oh.
Alors, ça va être en lien direct avec notre couple mystère. Hein. C'est pour ou contre le mariage. Et puis, allez, pour aller un petit peu plus loin, pour ou contre la fidélité ou l'infidélité.
Wow.
Oh là là, oh là. Vous avez 5 minutes.
Alors, comment il disait par rapport à Chirac, douche comprise.
Non, mais pour le coup, le couple mystère avait fait le choix de ne pas se marier, mais c'était aussi dans une dynamique de totale liberté concernant leurs histoires, on va dire sentimentales et sexuelles. Voilà. Moi, je suis marié 2 fois. Et de fait, je ne conçois pas les relations sexuelles sans amour. A priori, c'est pas le cas de tout le monde. Oh là là, ça les inspire pas.
Non mais
mais c'est compliqué. Vaste programme.
Je souris parce que ça rejoint la grosse discussion que j'ai avec une amie qui part du principe que un homme est obligatoirement infidèle parce que physiquement il est construit comme ça. Alors j'aime beaucoup. Il y a des discussions.
Tout à l'heure tu parlais de clous rouillés là donc.
Non, moi je suis pour la fidélité.
Mais, hein. Mais alors ça veut dire que l'homme serait infidèle qu'avec des femmes fidèles, c'est ça?
Ah, mais ça m'a pas précisé avec qui quoi. Ou alors des célibataires peut-être, oui. Voilà. Hein. Non, moi je trouve que la fidélité est importante que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Bon, mais ça veut dire que fidélité, ça veut dire qu'il y a de l'amour là-dedans.
Voilà. Moi ce qui est marrant, c'est que bon. Quand on évoque ce genre de sujet, je veux dire, on évoque justement des couples, on savait qu'ils étaient libres, qu'ils n'habitaient même pas forcément ensemble, comme Gérard Houry et Michel Morgan ou d'autres personnes comme ça. Mais, et on dit, pas de jalousie, les gens vivent les relations comme ils veulent. Mais en fait, il s'avère que malgré tout, il y a des moments où ça craque.
Ah ben, en l'occurrence, dans le couple en mystère, madame était très attachée et faisait valoir son rôle de première dame, entre guillemets. Hein.
Et monsieur, lui, allait où il voulait.
Ben, j'ai envie de dire, monsieur, il faisait comme bon lui semblait, mais personne n'a jamais pris la place de madame. Voilà. Pour le petit indice supplémentaire, et je trouve que c'est le dernier que je vais donner, pour madame, c'est elle qui avait dit, on ne naît pas femme, on le devient.
On le devient.
Voilà. D'accord.
Mais moi, je par rapport à cette réflexion, ce sujet, moi, je dirais que, de toute façon, c'est des histoires de vie. Ça reste des histoires de vie, donc avec des contextes, des aléas, etc. Moi, pour ce qui me concerne, je pense que Moi, je suis ce que tu dis, Raphaël. C'est-à-dire, le mariage, c'est derrière, faut que ce soit une histoire d'amour derrière. On est d'accord. Et par contre, l'amour, le couple, ça se nourrit. Enfin, ça se construit à deux. Moi, ce que je retiens, c'est que il faut alimenter le feu de l'amour, c'est bon de le dire. Il faut y mettre des, de temps en temps,
il faut y mettre des bûches.
Et ça me paraît important. Et c'est souvent les coups durs aussi qui peuvent, quand ils sont vécus dans le dialogue et dans la, voilà, ça peut se nourrir. Enfin, et je pense que quand ça fonctionne, ça peut être merveilleux, parce que moi je pense qu'en ce moment, enfin à la période de ma vie, donc j'ai 71 ans bientôt, eh bien je trouve que c'est une richesse énorme, quoi, de vivre en couple et de vivre des choses encore fortes ensemble, quoi.
Alors, pour rebondir sur ce qu'il dit, je veux dire que je pense que être fidèle, je pense que ça doit être un sacré élément de satisfaction. C'est-à-dire que, d'abord, être content de l'être, parce que je pense que n'importe qui sera infidèle à un moment donné pourra un peu culpabiliser, mais pas forcément, je connais pas la mentalité des gens. Mais je crois que être fidèle et être fidèle toute sa vie, ou au moins tant qu'on est avec quelqu'un, je pense que c'est valorisant quand même. Valorisant pour l'autre personne, mais même pour toi. Tu te dis, bon, je suis quand même quelqu'un d'honnête.
Alors, il y avait quelqu'un relativement jeune qui me disait, bah oui, mais tu comprends, autrefois, les mariages, on mourait jeune. Alors donc, voilà. Tandis que maintenant, avec nos âges jusqu'à 90 ans, fêter les noces d'or et puis les noces de diamant.
il me semble que les infidèles sont fidèles à eux-mêmes, en fait. Ils ne voient pas de mal, forcément, à avoir des relations annexe et parfois ça n'enlève probablement rien à l'amour, et entendait parler de polygamie autrefois, on parle aujourd'hui plus de polyamour, parce que c'est des concepts lesquels je suis pas très familier, mais est-ce que c'est tant un problème que ça, finalement?
Mais je veux revenir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'honnêteté, je veux pas dire que quelqu'un qui est infidèle est malhonnête, ça n'a rien à voir. Chacun fait ce qu'il veut.
Du moment que c'est pas avec ta femme.
Et puis du moment que l'autre accepte des choses aussi, parce que fidélité de l'un touche aussi l'autre.
Je pense aussi à une des conditions pour continuer à faire vivre le couple, l'amour dans le couple, c'est que faire en sorte que l'autre existe pleinement, quoi. C'est-à-dire que c'est surtout pas
tu le dévores pas.
Voilà, c'est ça. Et très attentif à ça, à ce que la personne puisse se développer en tant que telle et non pas uniquement dans le couple. Ça, c'est important.
L'amour fusion.
Ça ne dure qu'un temps au départ, bien sûr, mais bon.
Parce que si c'est toi qui bouffes l'autre, ça va, mais enfin, si c'est toi qui bouffais.
Pas difficile de donner des leçons de vie. C'est-à-dire que les gens ont des mentalités différentes.
C'est des histoires.
Ça dépend des tranches d'âge, ça dépend de l'époque.
Des contextes.
Les contextes, sociopolitique aussi, parce que je veux dire que quand t'as des problèmes, peut-être que tu cherches ailleurs, j'en sais rien.
Après, je trouve que les gens qui ont des histoires de vie multiples, je trouve que ce sont des gens assez fabuleux, dans la mesure où moi j'y arrive pas des fois avec une famille traditionnelle. Faut être au four
et
au moulin.
Les gens ont une double vie ou même une triple vie.
Oui, puis qui veulent que la première ignore ce qui se passe à côté, parce que c'est ça le secret.
Pourquoi tu dis toujours la première? Le premier. Le premier aussi.
Oui, parce que je pense que c'est pas genré, ce problème de fidélité et infidélité. Et homme ou femme, il y en a qui aiment la chose et qui vont l'expérimenter autant qu'ils le peuvent autour d'eux. Pour certains, c'est un problème, pour d'autres.
Les agences de détectives privées ont encore
des beaux jours devant eux. Mais ça existe encore, les agences de détectives privées.
J'ai entendu parler aussi du mariage pour faute récemment, et je croyais que c'était une notion qui n'existait plus, moi.
Mariage
pour faute.
Pour faute.
Mariage pour faute.
Pour non consommation aussi.
Le mariage blanc.
La chose, voilà.
Ouais. Donc ça fait des choses. On n'a pas de réponse en clair autour de la table. Décidément, je vous apporte toujours des problèmes sur lesquels on n'a pas de réponse.
Intéressant cette émission là.
On a des sujets, on n'a pas des problèmes.
Eh oui. Josiane, tu voulais nous faire un petit quiz d'expression.
Oui, parce que comme moi je suis pas aussi expert que vous en matière de musique et tout ça, je me suis dit que j'allais vous faire trouver des petits proverbes autour de la musique.
Ah. Et maintenant, alors, il faut trouver quoi?
Alors.
Un proverbe.
L'expression. Avoir le nez retroussé.
Moi, je l'ai.
Alors, comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'on dit?
En lien avec les instruments de musique.
Oui.
Avoir le nez...
Le nez retroussé...
Oui, avoir le nez... Voilà.
La trompette, oui. Voilà, le nez en trompette, d'accord.
Voilà. Oui. Voilà. Alors, s'esquisser ou faire des choses d'une façon très discrète.
Moi, je l'avais pas, celle-là. Et je l'ai toujours pas.
Parce que t'as les solutions?
Ah bah, ouf.
Non, il l'a eu, il s'en souvient.
S'esquisser.
Mais toujours parabère.
Très discrètement.
Toujours un instrument de musique.
C'est des instruments de musique. Je ne suis que
ça. Répète, s'esquisser.
Ben, s'esquisser. Comment très discrètement faire quelque chose très discrètement.
Mais t'as trouvé ces définitions par toi-même?
Non mais j'en ai beaucoup, oui. Et puis j'en ai quelques-unes que j'avais pas.
C'est ce qui c'est discrètement. C'est la batterie.
Sans tambour ni trompette.
Sans tambour ni trompette.
Voilà,
ah oui, c'est l'expression arrière.
Donc, sans tambour ni trompette.
Bien,
moi je l'avais pas.
Ouais, d'accord.
Très bien.
De toute façon, on n'a pas entendu ce que j'ai dit.
Ah si. Non. Non, on n'a pas entendu. Il a trouvé tout seul, Marc.
Alors, vous payez quelque chose et vous n'en profitez pas.
Pom 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 pom. Je fais la musique d'attente. Hein. Pom 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 pom.
Gros nounours. C'est gros nounours.
Oui.
Bonne nuit, les petits.
C'est payer les violons du bal. On paye, voilà.
Bon, ça fait longtemps que je suis pas allé au bal, moi.
Alors, quelque chose qui est pas vrai. Oui, quelqu'un te dit quelque chose et c'est pas
une
vrai.
Une voix de fossé?
Non. Ah oui, c'est du pipeau.
Voilà, c'est du pipeau. Parfait.
Bah ça, on en a tous les jours, ça, du pipeau.
Oui.
Alors, par contre, se mettre d'accord.
Se mettre d'accord. S'accorder.
S'accorder, justement, quand t'accordes un instrument de musique. Accorder ses violons.
Accorder ses violons, bah oui.
Voilà, tout simplement.
Et la dernière, que pas très, très, très relevée, mais enfin...
Ça veut dire que c'est... pas pour toutes les oreilles.
Elle rigole de ses propres bêtises.
Faire une intervention qui n'a absolument aucun effet.
Non.
Voilà, je vais couper le blanc là.
Je vois pas.
C'est pisser dans un violon.
On n'a pas l'esprit tendu.
Non mais c'est bien ton truc.
Oui, c'est une bonne idée.
Mais
Faut rentrer dans la pensée, mais c'est très très
bien. Oula, moi ça fait longtemps que j'ai arrêté de rentrer dans les pensées de Josiane. Hein. Bon, voilà.
T'en auras d'autres?
Oh oui.
Donc la prochaine émission,
oui, on va s'en
nouvelle chronique.
Oula, on va
c'est
être
bien.
Meilleur.
Ah ouais, c'est bien. Mais ça sera toujours par rapport aux instruments de musique?
Non, parce que j'en ai toute une collection là sur des légumes.
D'accord.
Ah, des légumes. Ah oui.
Vous attendez quelqu'un très 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 longtemps?
Dans les choux, non, on n'est pas dans les choux.
Joker. Bah, tu la gardes pour la prochaine fois, celle-là.
Faites le poireau. Ah, bah oui, voilà. Faites le poireau. Bah, le chou et le poireau, j'étais pas loin.
Donc, vous voyez, j'en ai tout un tas de trucs.
Merci, Josiane.
Voilà.
On va écouter la nouvelle chanson. Alors, celle-ci était de 1970. J'avais juste envie de la programmer. C'est pas en lien forcément avec notre couple mystère. C'est Nicoletta avec Quand on a que l'amour.
Ah, oui.
À tout de suite. C'est peut-être en lien avec notre précédente conversation.
Oui.
À tout de suite.
Quand on a
ça.
Et les chicoufs.
Les chicoufs, hein. Chicons, hein. Chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Et ça, bon. C'est bien vrai, hein.
Bon, c'était Nicoletta avec Quand on a que l'amour. On va peut-être pouvoir dire à nos auditeurs qui est le couple célèbre.
On pose encore une ou deux questions.
Je crois que tu as déjà trouvé Jean-Jacques, donc tu peux peut-être donner un indice aux auditeurs.
Ça dépend vers où tu veux qu'on regarde. Non, mais là, je fais allusion au regard du monsieur.
Eh bien, je t'écoute alors, vas-y. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de cet homme, qui a quand même marqué son temps?
Qui a marqué son temps, qui était très contredit, qui a eu un adversaire philosophique en la personne de Raymond Aron, hein, qui était c'est pas le même côté de la balance au niveau politique, quoi, qui a été très activiste, hein, parce que s'il y a des activistes actuellement, lui il l'était aussi, hein, et sa compagne. Je le mets entre guillemets, parce que c'est vrai que bon, elle avait quand même des libertés, comme lui avait des libertés, hein. Sa compagne a imprimé vraiment le tout ce qui est le féminisme et tout ça, oui. Ça vient d'elle.
Oui. Elle l'a inspiré,
même si elle a rebondi sur d'autres personnes qui étaient encore plus anciennes qu'elle.
Et la libération de la femme, oui.
Voilà. Donc, c'est Josiane qui va dire qui c'est.
Allez, Josiane, nous t'écoutons. C'est qui était le couple mystère?
C'était Kites.
Alors, je crois qu'il s'agit de Simone de Beauvoir.
Voilà, et?
Voilà, et Jean-Paul Sartre.
Voilà, bon, deux intellectuels, on va dire, qui ont vraiment inspiré la nouvelle pensée.
Des années 50, 60 et 70, voilà.
Bon, par contre, moi je découvrais, en préparant cette émission, qu'ils étaient aussi libres que ça, et franchement, c'était une vraie surprise, parce que les gens ne soient pas mariés, c'est une chose, qu'ils aient des vies individuelles, parallèles, et une vie de couple, pour moi, c'était loin de leurs préceptes. Mais bon, voilà, je pense que ce sont peut-être de ces personnes qui savent dissocier l'intellect du fait quotidien. Voilà. D'ailleurs, c'est souvent les donneurs de leçons, hein, qui nous déroutent parfois aussi. Hein. On peut le voir dans la classe politique ou d'autres. Hein. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi, Jean-Marc, de ce couple historique, hein?
Je pense que c'est des gens qui des intellectuels. On parle qu'il n'y a plus d'intellectuels en ce moment, donc qui ne sont pas assez présents. Eux, ils étaient présents sur la scène, je dirais, de la vie sociale et politique. Et c'est vrai qu'ils ont marqué leur temps, ils ont marqué la pensée, ils ont marqué des générations, je pense, d'étudiants, et aussi ce que tu disais, Jean-Jacques, c'est par rapport à l'engagement aussi. Je pense qu'ils ont inspiré des personnes en termes d'engagement, soit pour le féminisme ou pour la dimension politique.
Ils vivaient en accord avec ce qu'ils proclamaient, parce que t'en as tellement qui te font des beaux discours et puis qui vivent autrement. Là, vraiment.
Mais je veux dire, enfin, il y avait une période bien particulière et. Ils sont quand même vachement attachés. Alors, notamment Sartre, par rapport à la presse écrite, la presse de papier, où, bon, je veux dire, c'était, vous savez, on a toujours les images, la distribution, de Libération, enfin, des journaux dans la rue, hein, je veux dire, qu'il y avait ce qu'on ne fait plus. On n'utilise plus le papier, même pour, c'est fini, même les campagnes d'affichage. On affichait.
C'est les réseaux sociaux maintenant.
On se mettait même sur la gueule, hein, quand on affichait.
Les tags.
Moi, ce qui m'a surpris dans leur existence, c'est que finalement, Jean-Paul Sartre, c'était le plan B de Simone de Beauvoir. Pourquoi? Parce que elle avait, on va dire, jeté son grappin sur un autre personnage qui s'est marié avec une autre personne et donc c'est devenu Jean-Paul Sartre. Ah, mais ils étaient, on va dire, rivaux dans le cœur de Simone de Beauvoir et elle ne l'avait pas retenu en premier parce qu'il n'avait pas été majeur de promo dans sa formation. Donc j'ai envie de dire, c'est quand même c'est loin de... Je trouve ça un petit peu bourgeois comme réflexion. Et ça m'a surpris.
À l'agrégation de philo qu'il était
c'est possible.
Il était premier.
Coup, c'est l'année d'après où il est devenu majeur. C'est ce qui a conditionné leur vie sentimentale.
Et le nom du premier choix, tu l'as?
Non, je l'ai oublié.
Il faudrait regarder ça.
Mais c'est quelqu'un de connu, peut-être même pas.
Quelqu'un de notable certainement, connu, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne dois pas être suffisamment connu parce que je l'ai pas retenu
et j'étais pas majeur de promotion.
On essaiera de le retrouver pour la prochaine.
Oui, ah oui, 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 ça m'intéresse.
Intéressant.
Bon ben voilà, ça c'est noté. On se le dit pour la prochaine fois. Le plan A de Simone de Beauvoir, qui était-ce?
Un vrai sujet.
Comme quoi, faut toujours avoir un plan B de secours.
Ben je crois que c'est toujours. Moi, c'est une règle dans l'existence, c'est plan A, plan B, plan C. On ne sait jamais lequel va fonctionner. Et effectivement, c'est toujours bien de savoir pouvoir rebondir systématiquement. Ouais.
D'accord.
Mais on peut prévoir beaucoup de choses.
Tu l'as ? C'est vrai, mais je l'ai su. Je l'ai su parce qu'ils en ont parlé il y a quelques temps. Et tout. C'est Claude Lanzmann, c'est celui qui a fait, vous savez, les films sur la Shoah.
Ah oui.
Ah.
Et il était beaucoup plus jeune qu'elle. Mais je vais dire, oui, non, mais je le sais. je le savais, mais je me rappelais plus du tout. Mais là, ça y est, ça me.
On va écouter une dernière chanson dans cette émission qui date de 1980, qui était l'année de décès de Jean-Paul Sartre.
Quelle année tu dis?
1980. Voilà.
Ah oui.
Et on va écouter Une femme amoureuse. Je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'interprète. À tout de suite.
Je n'ai plus qu'une question, tes yeux, mes yeux, et je chante ton nom. Si quelqu'un d'autre venait, je l'éloignerais, et je me plan fabuleux, tracé là-haut pour l'amour de nous deux. Qu'on soit ensemble longtemps ou séparés par des océans. Si un danger survenait, je l'éloignerais et je me
Bon, c'était donc Mireille Mathieu, pardon, j'avais mangé le nom de l'interprète, Mireille Mathieu, avec une femme amoureuse pour une reprise de Barbara Streisand. Pendant la chanson, on parlait un petit peu des mœurs des uns et des autres, et effectivement, on se dit que dans les célébrités, il y a quand même des mœurs très différentes de nous, notre petite condition d'angevin. Bon, Josiane.
Alors,
tu avais une petite manifestation à nous
alors,
communiquer.
L'avantage, n'est-ce pas, d'aller faire tirer des photos sur papier, c'est que vous entrez dans le studio de quelqu'un et vous faites des petites découvertes. Alors, j'ai trouvé une exposition qui a lieu en ce moment jusqu'en mars l'année prochaine. C'est une exposition, donc, Angers, à travers l'objectif des premiers peintres photographes de 1850 à 1900. Et donc, cette petite exposition est présentée par l'Association pour le Dictionnaire des Familles de l'Anjou. C'est du côté de la caserne Verneau, par là-bas. Voilà.
Direction Avrillé, quoi.
Voilà. Alors, normalement, ce ne sont que les samedis après-midi, de 14h à 18h. Et c'est jusqu'au mois de mars.
Je rectifie, sur le papier, il est marqué de 14h30 à 18h.
Ah, ben moi, je marque 14h à 18h.
voilà. Il faudra attendre une demi-heure avant.
C'est ça.
Voilà. Donc, la dernière exposition, c'est le 9 mars. Et exceptionnellement, ce sera le matin, de 10h à midi. Alors, éventuellement, j'ai noté leur portable 07 82 22 88 86 et sinon par internet @http://www voilà.
Alors, c'est quoi? C'est des images, des photos ou c'est des peintures? C'est les deux?
Ben, ça doit être les deux, puisque c'est les premiers peintres et les peintres photographes 1850-1900. Alors, je ne sais pas si ce ne sont que des peintres photographes angevins, ou si c'est plus ouvert.
Par contre, c'est des images d'Angers.
C'est des images d'Angers, puisque la première là sur ici là, c'est le quai Gambetta.
Dans tous les cas, on voit l'évolution de la ville d'Angers au fil du temps.
Voilà.
Et ça peut être instructif parce
au
que
fascinant, ça. 19e siècle.
Ce que j'espère surtout, c'est qu'ils nous disent quel coin c'est, tout ça, pour qu'on fasse la comparaison de ce qu'on connaît, quoi.
Et le fait est que, enfin, moi, à moins de 50 ans, je trouve que la ville d'Angers renouvelle de décennie en décennie, et c'est impressionnant, effectivement, de voir comment, d'abord, l'agglomération, on va dire, s'étale, et puis, c'est vrai que quelqu'un qui a connu la ville en 1960, qui est parti, ne la reconnaîtrait pas forcément facilement.
Il y a eu plusieurs étapes, mais... Ouais. Toute cette étape-là qui était encouragée par le maire à l'époque de nettoyer les façades en tuffeau, là déjà ça donnait. On parlait de la ville noire, c'était la ville blanche. Et puis quand on voit, moi j'habite à Avrillé, le haut de Saint-Aubin, et puis toute la zone là, c'est une nouvelle ville qui est en train de se construire. Oui. Hein, c'est
tout
impressionnant.
Tout l'abattement des baraques le quai Ligny, ça fait un foin important. Hein.
On va redonner le numéro de téléphone, Josiane.
Oui, alors c'est...
Le 07 82 22 88 86. Et pour le site internet, c'est www.geneadic.com. Geneadic, G-E-N-E-A-D-I-C. Comme généalogie et dictionnaire.
Ah ouais. Donc, et voilà. Justement, si vous vous intéressez en plus à la généalogie, c'est les familles angevines.
Donc,
du département. Bon, ça veut dire qu'on remonte ailleurs parce que...
Les amis, on va se retrouver dans une quinzaine de jours pour une nouvelle émission d'Il est l'heure, Monseigneur. On aura récupéré Jacqueline, j'espère. Et puis, Ricardo, je crois qu'il sera encore en vacances, le Vénard. Donc,
on fait pas un déplacement comme ça trois jours. Hein.
On va souhaiter une bonne semaine aux auditeurs et on se retrouve dans 15 jours. Merci Jean-Jacques.
Merci, avec plaisir.
Merci Josiane.
À plus tard.
Merci Marc.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt. Bonne semaine.
Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes.
C'est tout.